Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Nous, on a le sentiment qu'on voit des trucs d'ergonomie et de game design qui nous insupportent et qui sont importants, et on n'en fait rien, en fait, de ce truc-là. Peut-être qu'on peut proposer aux éditeurs de leur transmettre un peu l'information et d'échanger avec eux, parce que bah, si nous, on voit des trucs, a priori, il y a sûrement quelque chose à transmettre à l'éditeur pour qu'il avance sur ça. Néanmoins, à un moment, j'ai conscientisé un peu cet aspect un peu râlerie, et j'ai essayé de me réenchanter. C'est-à-dire que volontairement, je me suis dit, je vais arrêter de me dire que tous les jeux sont nuls, je vais arrêter de pas avoir envie de jouer au moment où je m'installe sur une table et où je me dis on va jouer à ça et je fais oh, ça a l'air nul en fait quoi. Non, je vais me dire ok, ça a l'air bien, j'ai envie de jouer, je vais passer un bon moment. Peut-être que ça sera pas le meilleur jeu de l'année et en fait on s'en fout un peu et vas-y, je m'amuse en fait quoi.
Exécuté par qui? Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi, à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès, depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu, c'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute.
Tu fais souvent des podcasts ?
Un tout petit peu, j'en anime un qui s'appelle 6388 et qui parle de création. Et après, on me propose ponctuellement, mais il n'y a pas énormément de contenu qui parle de jeu. Mais j'en ai fait un la semaine dernière.
Ok.
Enfin, non, on est dimanche, donc j'en ai fait un cette semaine.
Ok.
Qui était assez chouette. C'était un podcast qui parlait de jeux sur des tops de jeux. Donc c'était à moi de définir un top 5 de jeux sur une catégorie très précise et très spécifique. Et c'était vachement agréable. On a bien papoté avec le mec, là, Mathieu, qui animait ça.
Et c'est quoi ton podcast, en fait?
Ça s'appelle 6388.
Ouais. Quelle est la ref?
C'est la taille d'une carte Magic en millimètres.
Oh.
qui est le format par défaut quand je fais des prototypes de jeux. Généralement, je fais des cartes dans ce format-là.
Ok.
Et j'anime ça à deux avec un bon copain qui s'appelle Zéphiriel, qui anime pas mal de podcasts qui parlent de jeux de société et de jeux de rôle. Et l'idée, c'est qu'on a fait un premier cycle qui était un peu la vie d'un jeu de société, de la première idée jusqu'à... l'après-création, l'après-sortie même. Et après, on a fait quelques moments d'interview sur des thématiques spécifiques du monde du jeu. On a eu deux illustratrices qui sont venues parler, une maison d'édition, un distributeur pour montrer un peu les différentes étapes du monde du jeu. Puis là, on était un peu bloqués il n'y a pas longtemps on a dit tout ce qu'on avait
fini
à dire, comment on fait. Et les gens sont très chouettes, donc nous demander du contenu supplémentaire. Et donc là, on expérimente un nouveau format en ce moment. On a enregistré le premier... la semaine dernière, okay, on va interviewer des auteurs ou des autrices qui ont eu un jeu qui a bien marché, en mode un peu carnet d'auteur de bah tiens, comment ça s'est passé, à quel moment tu as eu l'idée, c'est quoi ton contrat, comment est-ce que ça a été, quoi les gros défis de test, comment est-ce que tout s'est passé. On a fait le premier avec Antoine Bozac qui a fait Anabi, un jeu de cartes qui a très très fort marché, et c'était vachement agréable. Antoine, c'est un bon copain que je connais bien, il y avait un truc d'avoir plein de petites anecdotes, de trucs qu'on raconte pas tant que ça et que lui il avait l'impression d'avoir déjà raconté. Mais en fait, ça faisait 1000 ans qu'il n'en avait pas parlé. Donc, donc par exemple, moi, j'avais pas les refs. Et donc, je pense qu'on va pas mal s'éclater sur ce format-là.
D'accord. Bon, alors, vous l'avez entendu, Théo, et enfin, si peut-être vous l'avez compris, parce que je crois que je vais le mettre dans le titre de cet épisode. Mais Théo est créateur de jeux de société, c'est ça?
Ouais.
C'est comme ça que t'appelles ça?
Ouais, on a tendance à dire jeux de société en français, qui est pas le... Il y a un truc un peu bizarre dans société, qui est pas forcément le truc, mais...
Parce que c'est l'aspect social, c'est ça? C'est pour jouer ensemble?
C'est ça, mais en même temps, maintenant, il y a des jeux de société qui se jouent à un ou à deux. Donc, il y a une espèce de truc de... Le jeu solo existe, et donc c'est... Mais la nomenclature, on dit jeu de société. Ouais.
Tu fais ça depuis 10 ans, bientôt, non? C'est ça?
Bientôt, ouais. Mon tout premier jeu à sortir, c'est Shinobi Wata, à l'époque, qui sort en 2014.
D'accord. Et c'est un tout petit monde que justement je suis très heureux de pouvoir faire découvrir à mes auditrices et mes auditeurs. Moi, j'y connais pas grand chose et en fait, ça me fait plaisir de t'avoir là aussi parce que ça, c'est aussi une occasion de faire découvrir un peu cet univers. À chaque fois qu'on parle, c'est fascinant parce que t'es un vrai expert heureusement de ton métier, j'allais dire, mais aussi de l'univers parce que l'un des trucs, tu vas me dire si c'est le cas en tout cas, mais j'ai l'impression que l'une de tes particularités, c'est que tu crées aussi beaucoup de contenu. Là, on parlait juste avant de ton podcast, mais t'es aussi streamer, tu fais des streams très réguliers sur ta chaîne Twitch pour parler de l'univers et pour parler de jeux de société, quoi.
Ouais, c'est un truc qui me passionne énormément, à la fois sur une notion de montrer que c'est cool en fait, faire des jeux c'est chouette et on a envie d'avoir plus de personnes qui font des jeux. Et à mon modeste niveau, je me suis dit tiens, je vais en parler, je vais démystifier un peu des fois ce qu'il peut y avoir sur la création, c'est compliqué, c'est dur, vous allez en chier, et de dire non, en fait, regardez, ça peut être chouette et on peut faire plein de trucs vraiment sympas. Et il y a aussi une logique de présentation de mes propres jeux. On en parlera certainement, mais les auteurs et les autrices de jeux, on est des personnes qui sont pas spécialement mises en avant dans le microcosme même ludique. On est souvent oubliés par la communication, par les journalistes, et c'est souvent l'éditeur qui est mis en avant, la maison d'édition. Et donc, à un moment, je me suis dit, le meilleur moyen que moi, on ne m'oublie pas, et que par extension, si on commence à un peu moins m'oublier, on oubliera sûrement un peu moins les autres aussi, c'est que je devienne quelqu'un qui communique suffisamment pour que les gens qui vont communiquer à leur tour se disent « Ah bah oui, on va mettre Théo dans notre communication parce que on y pense, et puis parce qu'il va sûrement repartager, ça peut avoir un petit impact. » Et donc à un moment, j'ai pris la décision, aussi parce que ça m'amuse beaucoup, je dois l'avouer, mais de laisser un peu plus de place à la communication dans mon boulot.
Ok. C'est un truc, oui, comme tu dis, qui te plaît et que tu fais de façon un peu naturelle, j'ai l'impression.
Ouais, clairement. J'adore papoter, j'adore échanger sur des trucs, donc c'est assez facile sur ça.
Et puis surtout, c'est pas forcément très simple de se lancer sur Twitch, de faire des streams où, là, pour le coup, t'es pas en train de papoter, t'es seul face à ta caméra. Ouais. Et, alors certes, t'interagis avec le chat, mais...
Twitch a été vraiment une forme de mini-thérapie en même temps. Moi, je me suis lancé au moment du premier confinement. Et j'adore créer des jeux aussi parce que c'est un peu cheesy, mais on partage des moments avec les joueurs et les joueuses autour de la table. Et par extension, j'adore les festivals de jeux, qui sont des moments où on se regroupe, il y a plein de gens, on joue, il y a des tables, nous on fait un peu d'animation, un peu de discussion, il y a un tout petit peu de dédicace, ce genre de trucs, mais c'est vraiment accessoire dans ce qui me plaît. Ce qui me plaît vraiment, c'est de me poser à une table et de jouer avec des gens, ou même d'échanger, de « Hey, vous avez joué à quoi sur le festival ?»« Ah, il y a ça, vas-y, c'est trop bien !» et tout, et de discuter et d'échanger avec ces gens-là. Et vraiment de pas l'avoir pendant le Covid. C'était vraiment une source de tristesse assez importante. Et donc, j'ai changé sur des gens, sur des Discord, un peu sur le net, mais j'avais pas ce plaisir-là. Et à un moment, je me suis dit, ok, j'ai la fibre optique depuis une semaine, je peux streamer et ça peut fonctionner, vas-y, je vais essayer. Et j'ai retrouvé, un peu moins bien, mais un peu différent en même temps, ce plaisir-là d'être avec des gens dans le chat, de « Hey, vous avez vu, il y a ça qui est sorti, vas-y, je regarde le jeu, on en discute », et de retrouver un peu ce plaisir d'échanger avec des gens que je connais pas, mais avec qui on a une même passion et un plaisir de papoter.
Ok, trop cool. On va parler de tout ça dans cette interview. La première question que je pose à tous mes invités dans l'histoire du succès, c'est à quoi tu ressemblais, Théo, quand tu avais 7-8 ans?
C'est une bonne question, effectivement. En même temps, tu la poses, donc j'imagine que tu l'aimes bien. Moi, j'ai grandi à la campagne, très très fort. 7-8 ans, on est en quelle classe? On est en CE1.
Ouais. CE1, CE2.
CE1, CE2. En CE2, je suis dans la classe de mon père qui était instit.
Okay.
J'ai fait 2 ans dans sa classe. Ça s'est bien passé. J'ai eu vraiment un vrai plaisir à passer dans sa classe et à échanger sur tout ça. Je suis plutôt un bon élève, un peu studieux, mais en même temps, j'ai une bonne bande de potes. On fait un peu les foufous, on aime bien se balader dans la forêt, faire des cabanes, ce genre de choses.
Tu es dans quel coin ?
J'étais à côté de Poitiers, à la campagne, okay. vers Mirebeau, pour ceux que ça peut éventuellement parler, pour celles et ceux. Et je suis quand même pas trop un aventurier. Ça, je l'ai perçu un peu plus tard en discutant un peu avec des gens. J'étais quand même dans un cocon familial très très protecteur. Et je fais pas de vélo, je vais pas faire des grands trucs, je me baigne pas dans la nature. Il y a un truc de, ouais, je suis un aventurier, mais vraiment à mon niveau assez léger, je suis un peu trouillard et donc je fais pas grand chose. Et l'autre truc très marquant, c'est que j'ai une grande sœur, Léa, avec qui je m'entends. Aujourd'hui encore magnifiquement bien, mais on était assez proches quand on était gamin déjà. Et elle a 5 ans de plus que moi, donc quand j'ai 8 ans, elle a 13 ans. Et on est quand même, tu vois, malgré tout, même si elle rentre dans l'adolescence méchamment à ce moment-là, on partage encore plein de trucs, on joue, on prend du temps ensemble. Et donc c'est un autre pilier vachement important de cette époque-là et qui est toujours vachement important aujourd'hui.
Ok, qu'est-ce que t'apporte cette relation en fait ? Parce que c'est vrai que 13 ans, 8 ans, ça fait une grosse diff. Hein.
Ouais, et même par la suite, tu vois, il y avait vraiment ce truc de... En grandissant, quand elle était vraiment dans l'adolescence, et elle a fait plutôt une importante crise d'adolescence, là où moi je suis resté le bon élève,
le sage le petit sage de la fratrie.
Il y avait quand même vraiment une complicité assez forte de... Ah, je vais cacher un peu ses bêtises, on va échanger, il y a des trucs un peu de... Elle me partage des choses que j'ai pas le droit de savoir. Il y a vraiment ce truc-là. Et aujourd'hui, ce qui est assez étonnant, c'est que on est très très opposés sur énormément de choses avec ma sœur. Elle habite à la campagne, moi j'habite à Bruxelles en centre-ville et je suis vraiment quelqu'un qui apprécie habiter en ville alors que elle est à la campagne avec des poules quoi. Elle a 3 enfants et j'ai pas d'enfants. Elle est mariée, elle a ce côté un peu de vie de famille et pourtant on échange et on partage encore énormément et je pense qu'elle m'apporte au-delà du fait que c'est quelqu'un de très solaire, de très qui apporte énormément de bonheur et de bonne humeur. Elle m'apporte aussi des discussions assez différentes sur des choses qui sont pas exactement les choses que moi je vis. Et donc, il y a ce côté mini-confrontation à aller pas exactement dans la même bulle que la mienne. Et en même temps, on est quand même très proches. Donc, elle m'échange plein de trucs. Donc, c'est ultra enrichissant comme relation frère-sœur.
Ok. Sur ta page Wikipédia, ils disent que tu découvres les jeux vidéo. Ou c'est, je sais pas si c'est toi qui le dis aussi, qui a écrit cette page Wikipédia. C'est des fans à toi, c'est ça?
Je crois que le point de départ, c'est un pote que je connais. Qui voulait mettre plus d'auteurs de jeux et d'autrices de jeux sur Wikipédia et donc qui rédige le premier draft. Et après, elle a été absorbée par les gens et donc c'est pas moi qui ai rédigé ma bio. Et ponctuellement, j'avoue, alors je crois qu'on n'a pas trop le droit.
Je
corrige les fautes majeures que je peux voir passer. Il y en a pas beaucoup. Wikipédia est quand même plutôt un bel endroit, mais ponctuellement, il y a des trucs où je me suis dit, ah, là, c'est pas le bon co-auteur sur ce jeu-là. Ou mystérieusement, il y a quelqu'un qui a ajouté 2 fois qu'un de mes jeux avait été nommé pour un prix, ce qui n'était pas vrai. Et donc, je me suis permis de le corriger les 2 fois. Mais je ne sais pas du tout qui a rédigé la bio, pour le coup.
Et donc, oui, dans cette page, il raconte que tu as découvert les jeux par l'intermédiaire de Magic.
Ouais.
T'en parlais là tout à l'heure, tu le mentionnais. Pour les gens qui ne connaissent pas, Magic, c'est un jeu de cartes cultissime, quoi, dans les années 90.
Ouais.
Si ça, si je me trompe.
Ouais, et puis qui sait pas, ça sort en 93 aux US, 94 en France.
Alors, je vous préviens, Théo, c'est une encyclopédie des jeux, donc vous pouvez pas le test.
Moi, je peux me tromper quand même, n'hésitez pas. Moi, je découvre ça vraiment par hasard j'arrive au collège, je suis en 6e et il y a des clubs du midi. Et je me dis, bah tiens, je vais m'inscrire sur un club, ça m'occupera le midi, ça a l'air cool. Je suis déjà un peu un geek, hein, je me souviens que ma première semaine de collège, j'avais très très peur de m'ennuyer, donc j'avais pris un gros roman avec moi que j'avais dans ma poche, en me disant, bah si jamais je m'ennuie, je vais bouquiner.
Okay.
Alors que bah très vite, je me suis fait des potes, et en fait, mais je suis déjà un énorme geek à ce moment-là, quoi.
Et plutôt solitaire à la base
Pas tant que ça, mais un peu la crainte de m'ennuyer, puis de pas réussir à me faire des potes, quoi. Et je m'inscris au club échecs du collège en me disant je vais jouer aux échecs, ça a l'air cool, c'est parti. Et je découvre que les échecs c'est beaucoup plus des maths que des jeux. Et donc ça me plaît assez moyennement, mais je suis dans ce truc et puis bah, c'est parti, la vie continue quoi. Et il y a un prof de techno qui décide de monter un club d'un jeu qui s'appelle La Légende des 5 Anneaux, L5R, qui est un jeu américain de cartes à collectionner. Parce que lui, je sais plus, il est genre champion de vice-champion de France ou champion d'Europe, vraiment un mec qui est très impliqué dans cette communauté-là. Et il se dit, bah, je vais monter un club du jeu de cartes à collectionner, quoi. Et je me retrouve aussi parce que c'est une thématique, L5R, c'est vraiment le Japon féodal fantasmé par des Américains, quoi. Donc c'est des geishas, des ninjas, des hommes rats, c'est les tortues ninja puissance 1000, quoi. Et donc, je m'inscris à ce truc parce que moi, ça me fait fantasmer de dingue, quoi. Vraiment, je suis parti. Et je suis un peu le seul tout petit. Sixième avec un truc qui est plutôt pour les troisième, quatrième, et donc il y a plutôt des grands, quoi. Et donc je joue à ça, je découvre ce jeu, et c'est incroyable, vraiment, ça. Je me dis, waouh, quel truc de ouf, je m'éclate vraiment de manière très très forte. Et la magie du marketing opérant, je pense 6 mois plus tard, on joue tous à Magic à la place parce qu'il y a plus d'extensions, il se passe plus de trucs, c'est plus vibrant, quoi. Et Magic, c'est vraiment un truc qui a structuré ma vie, et notamment sur cette période-là, mais aussi sur la suite de mon adolescence, voire le début de ma vie d'adulte, de manière très importante, parce que ça me fait rencontrer beaucoup de gens plus vieux que moi, pour le coup, parce que vraiment, c'était... je garde ce truc de je traîne plutôt avec des quatrièmes et des troisièmes, des gens plus âgés, parce que bah, on joue à Magic, on discute, et je pense que ça m'amène une certaine maturité un peu plus rapidement que ce qui était prévu. Et ça m'amène des relations très fortes avec des potes, on joue à Magic tout le temps, on pense Magic, on parle Magic, et vraiment on fait ça de manière très importante. Et ouais, ça m'amène en même temps aussi un plaisir de jeu que je découvre à ce moment-là, où je me dis, ouais, en fait, cette activité-là, c'est, je crois, l'activité que je préfère.
Ok. Et tu n'en sors plus jamais de ce fait-là ?
Si, un peu. Okay. Au lycée, on joue un peu, mais un petit peu moins. Parce qu'à l'époque, je découvre le jeu de rôle, et le jeu de rôle prend plus de place que Magic. Ce qui est marrant, parce que quand on discute avec des vieux briscards du monde du jeu, c'est souvent un peu l'inverse dans le parcours du monde ludique. Le jeu de rôle était très important, et Magic a fait pas mal de mal au club de jeu de rôle à une époque, parce que tous les mecs qui faisaient du jeu de rôle se sont retrouvés à jouer à Magic à la place parce que c'était plus facile. Moi, c'est un peu l'inverse, c'est le jeu de rôle qui m'amène à délaisser un tout petit peu Magic.
Dans le jeu de rôle, genre Donjons et Dragons,
ouais, tout à fait,
un
ouais.
truc comme ça, c'est ça.
Tous ces jeux avec un maître ou une maîtresse du jeu, où on joue, on discute autour d'une table.
Et c'est vrai qu'il y en a pour, si tu te poses autour d'une table, il y en a pour 5 heures de jeu, quoi.
Ouais, ça peut être des grosses sessions. Il y a de plus en plus de formats un peu plus légers, un peu plus courts. Et il y a vraiment, c'est un pan créatif qui est ultra vibrant en ce moment et qui a beaucoup de choses, enfin en ce moment, depuis une quinzaine d'années même, mais qui a beaucoup de choses vraiment très intéressantes. Et donc au lycée un tout petit peu moins, et à la fac vraiment beaucoup. Parce qu'il y a un programme dans Magic qui est formidable, que je vais pas détailler dans tous les détails, mais qui s'appelle les FNM, pour Friday Night Magic, qui est à l'époque, je sais pas si c'est encore maintenu, mais tous les vendredis soirs, dans la plupart des boutiques qui vendent du Magic, il y a un petit tournoi qui est organisé. Et c'est un petit tournoi qui a pas d'enjeu, quoi. Le gagnant, il gagne l'équivalent de 10 balles de cartes. Vraiment, il y a rien sauf le plaisir de jouer. Et à Poitiers, où j'ai fait mes études, la communauté était vraiment formidable. Il y avait vraiment un truc c'était plein de gens qui sont restés des potes et qui avaient pas que Magic dans leur vie. Qui est des fois un peu le problème, c'est, par la suite, j'ai rencontré plein de gens avec qui ça s'est bien passé, mais on ne pouvait parler que de Magic ensemble. On n'avait pas d'autres points communs. Là, vraiment, c'était des gens avec qui je pouvais échanger sur des trucs vraiment super. Et je m'investis pas mal dans cette communauté-là, au point de devenir arbitre officiel de Magic.
Je savais même pas qu'il y avait des arbitres.
Ouais, si, forcément, parce qu'il y a comme il y a des tournois avec des enjeux assez importants, il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour s'assurer, du bon déroulé des tournois. Et comme les règles sont quand même complexes, avec des interactions qui sont parfois pas forcément très bien perçues par les joueurs et les joueuses, il faut des personnes qui soient là aussi pour expliquer, démêler des situations un peu compliquées. Et donc, je me retrouve à arbitrer des petits tournois, à faire ça un peu au pif. Faut savoir qu'il faut passer des tests d'arbitrage. Donc donc il y avait plusieurs niveaux d'arbitrage. Pareil, sans rentrer dans les détails. Et quand j'ai passé mon test de niveau 2, qui était à l'époque un truc un peu important, je pense que j'ai plus révisé que pour mon bac, quoi. Il y a un moment où je faisais des tests tous les jours pour vérifier des cas de règles hyper complexes, un peu absurdes. Il se passe ça. Comment vous réagissez? Il y a un joueur qui dit ça à une joueuse au milieu d'un tournoi. Bah, c'est quoi la sanction qu'on doit lui appliquer? Parce que, je sais pas, il a fait tomber son paquet et en même temps, il lui a fait une remarque sexiste. Vraiment des trucs, cas pratiques très précis de comment est-ce que tu gères le bon déroulé d'un tournoi de Magic. Et c'est vraiment ça qui me met le pied à l'étrier derrière, parce que le fait d'être impliqué dans cette communauté me fait rencontrer tout un tas de gens et me donne une pseudo-expérience professionnelle, parce que je me retrouve d'un coup à avoir 20 ans et avoir organisé des événements où il y avait une centaine de joueurs, avoir managé des équipes d'arbitres où on est 5-6 et avoir fait « Ok, toi tu vas faire ça à tel moment, etc. » Et donc ça m'ouvre vraiment plein de portes et une expérience pro qui était étonnante, mais vraiment facile à valoriser par la suite, quoi.
Tu faisais quoi scolairement, notamment après le bac, après ça?
J'ai eu un parcours un tout petit peu bordélique au départ, même si c'est vite calé. J'ai fait une prépa, lettres. Okay. Je sors du bac, je suis plutôt un bon élève, et on me dit « t'es un bon élève, vas-y, va faire une prépa, quoi ». Et donc je m'inscris en hypocagne, et c'est l'enfer. Vraiment, c'est le mois et demi, parce que spoiler alerte, je pars au bout d'un mois et demi, le pire de ma vie, à vraiment me lever en ayant mal au bide, être vraiment pas bien, etc. Parce que je sais pas trop pourquoi je suis là. Je suis là un peu parce qu'on m'a dit d'y aller, et ça me plaît pas du tout. Et donc je fais ce mois de prépa en ayant lu la liste des genre 15 bouquins qu'on doit lire pendant les vacances, en étant super préparé, et ça me plaît pas du tout. Et je bifurque, du coup, après un mois et demi, je démissionne de la prépa pour aller vers la fac de lettres. Et la vie étant bien faite, la fac a commencé depuis une semaine quand je pars de la prépa, qui commençait un mois avant tout le monde. Donc j'ai juste perdu un mois de vacances là où tous mes potes étaient partis pour faire des trucs trop chouettes. Moi j'étais en prépa à ce moment-là. Et je rejoins la fac, et là c'est exactement l'inverse. Je me dis, quel endroit formidable, quoi. Notamment parce qu'à Poitiers, il y a une formation qui était spécifique, qui doit toujours exister, qui s'appelait Littérature et Culture Contemporaine, qui était arrivée en opposition au moment où Nicolas Sarkozy avait fait sa sortie sur la Princesse de Clèves et la lecture de la Princesse de Clèves qui ne servait à rien.
Ah oui.
Il dit, nous on va faire un truc ancré dans le présent, et on va vous montrer que les études de lettres, c'est vachement actuel et c'est vachement utile. Et donc, c'était une formation de littérature avec un socle assez classique, assez commun, mais de l'analyse de discours politique, de l'analyse de danse contemporaine, de théâtre, de vraiment des choses vraiment super. Et je m'éclate comme un dingue à ce moment-là, quoi. C'est vraiment super. Je finis ma licence avec plaisir et j'embraye avec un master en littérature et culture de l'image, plutôt axé sur la littérature comparée. Avec, à l'époque, il y a un truc qui m'obsède et qui me plaît beaucoup, c'est les adaptations au cinéma de Philippe K. Dick, l'écrivain. Okay. Notamment, j'ai fait mon mémoire de première année sur A Scanner Darkly de Richard Linklater,
okay,
qui est vraiment un film fascinant sur plein d'aspects. Et au milieu de mon master, je parle avec mon directeur de mémoire, qui est un type formidable.
On est bien d'accord que A Scanner Darkly, c'est un dessin animé, c'est ça?
Ouais, c'est en rotoscope. Ça a été tourné avec des acteurs et ça a été réanimé par-dessus.
Okay.
Ce qui est vachement intéressant, justement, dans le côté identité brouillée, qui est très important dans Substance Mort. Et mon directeur de mémoire, à ce moment-là, me dit, bah, en fait, c'est cool, tu veux faire quoi après, quoi? Je dis, bah, je crois que je suis assez bien, là. Moi, la recherche, ça me plaît bien. Être enseignant-chercheur, ça me fait vraiment envie. Donc, bah, je vais finir mon master pépouze et je ferai bien une thèse derrière, quoi. Il me fait, c'est cool. Tu sais, j'ai des potes, ça fait, ils ont fait des super papiers. Ça fait 10 ans qu'ils cherchent du boulot, quand même. Donc, conceptualise que c'est pas évident d'être enseignant-chercheur en littérature comparée. Il n'y a pas 1000 boulots et ça peut être un peu complexe, quoi. Et vraiment, là, moi, c'est une sorte de mini-douche froide de me dire, oh là là, je vais pas faire encore 4 ans d'études en chiant un peu pour que derrière, je trouve pas de boulot et que je sois malheureux, quoi. Il faut que je fasse autre chose, quoi. Et c'est à ce moment-là que le jeu de société a été une option envisagée et que je suis parti dans ce milieu-là. C'était vraiment un plan B à ce moment-là, quoi.
Mais c'est quoi le pont, en fait? C'est que tu te dis, bon, bah, j'ai cette passion-là qui est toujours là, où je joue à Magic, etc. Et c'est peut-être, il y a peut-être moyen de me professionnaliser, c'est ça?
À l'époque, j'avais rencontré une maison d'édition qui était à Poitiers, qui s'appelle Libellude, qui est une maison d'édition que vous connaissez peut-être parce qu'elle a fait Dixit,
qui
est un très 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 gros succès. Et à l'époque, je rentre chez eux comme testeur, bénévole vraiment pour le plaisir de tester des jeux, en partie parce que Régis Bonnecet, donc son fondateur, travaille sur un jeu qui s'appelle Seasons, qui est un jeu de cartes assez inspiré de Magic. Et donc, il y avait un truc de dire, bah, vous connaissez parfaitement les règles, avec un copain qui était aussi arbitre, venez et vous essayez de casser le jeu, quoi. Vous prenez toutes les cartes du jeu et vous essayez de trouver les cartes qui, combinées ensemble, font n'importe quoi et font des boucles infinies de « Ah, le jeu, il marche plus parce que j'ai pas vu cette interaction que vous allez peut-être voir parce que vous avez l'habitude de les chercher. » Et donc, je commence à être testeur chez Libellude, qui est assez rigolo parce qu'aujourd'hui, c'est une très grosse boîte, mais à l'époque, ils doivent être 4 ou 5, vraiment, c'est minuscule. Et je découvre vraiment cet aspect professionnel de « Ok, bah, y a des auteurs et des autrices derrière les jeux. Ok, il y a des chefs de projet qui chapotent un peu les trucs. Ok, il y a moyen de que ça soit un travail, quoi. » Et vraiment, ça me fascine et je trouve ça vraiment super.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Jusque-là, l'idée de dire « Ok, je vais créer des jeux vidéo, t'as même jamais effleuré l'esprit. »
Non, je crois que je fais même partie des gens qui n'imaginent pas qu'il y a des gens derrière.
Oui.
C'est comme, c'est pas un bon exemple, mais j'imagine qu'il y a des gens qui sont des designers de gâteaux apéritifs, et jamais je me suis dit un jour dans ma vie de « Putain, mais il y a un mec qui a décidé que là, les Pringles goût crème et oignon, ils allaient avoir cette forme-là, cette texture-là, etc. » Pareil, pour moi, les jeux de société à cette époque-là, c'est plus un objet qu'un produit culturel. Et donc, il y a un truc de bah, « je réfléchis jamais à qui a inventé ma table ou un jouet. » Et je découvre en rencontrant Libellude que « ah bah si, en fait, il y a des auteurs et des autrices comme dans le milieu du livre et comme dans d'autres milieux artistiques. Et il y a des gens derrière, en fait, ça doit être trop chouette. » quoi. Et ça m'ouvre aussi, effectivement, cette volonté-là de me dire bah, « je vais faire mon premier prototype de jeu. » quoi. Et donc, je commence à faire des protos vraiment sans aucune réflexion autour de l'éditabilité des projets. C'est vraiment, bon, je fais des trucs parce que c'est rigolo de faire des trucs. Et comme quand tu sais pas très bien dessiner, mais que tu dessines, mais en fait, c'est sympa de dessiner pour le plaisir. Je le fais vraiment juste pour le plaisir, sans me dire un jour, je vais le montrer à quelqu'un, quoi. Et les planètes s'alignent de ouf à ce moment-là, parce que je fais mon 2e ou 3e prototype. Et je le montre à un illustrateur de Poitiers qui a un petit pied dans le, enfin, même qui a un beau pied dans le milieu du jeu et qui sait comment ça se passe. Et il me dit, mais en fait, je crois que ton jeu, il est bien, tu devrais le montrer à un éditeur, quoi. Et à ce moment-là, je lui dis, bah ouais, mais en fait, Moi, c'est l'éditeur que tu me pointes que, à qui je pourrais le montrer. Je le connais pas, donc ça me fait un peu peur, en fait, de montrer mon jeu à un mec que j'ai jamais rencontré et que je connais pas, qui est une crainte assez classique chez les jeunes auteurs et autrices, qui est la protection de l'idée. Comment est-ce que je protège ça? La réponse étant, il n'y a pas trop de solutions à l'heure actuelle dans le droit français, donc vous embêtez pas à protéger vos jeux, montrez-les à des éditeurs. La plupart sont vraiment très très réglo, quoi. Et je me retrouve avec cette crainte quand même et à appeler Benoît Forger, qui est un mec qui travaille chez Libellude à ce moment-là, pour lui dire, bah voilà, il y a un truc qui veut voir mon prototype de jeu, ça me fait super peur, est-ce que tu le connais, est-ce que je peux le faire? Et il me dit, bah ouais, vas-y, montre-lui, t'inquiète pas. C'est quoi ton prototype de jeu? Parce que en fait, moi, ça m'intéresse, je vais partir de Libellude pour monter ma boîte et j'aurais envie que tu me le montres parce qu'on s'entend bien, quoi, je suis curieux. Et je montre le proto à Benoît à l'époque, on s'installe dans un bar. Et vraiment, quand je réfléchis à la manière dont je crée des jeux aujourd'hui par rapport à la manière dont j'ai créé ce jeu-là à ce moment-là, j'ai fait 1000 erreurs, il y a plein de trucs qui ne vont pas, le proto il est écrit à la main par une pote qui écrit bien, parce que moi j'écris trop mal pour faire un truc, mais je n'ai même pas imprimé des cartes, quoi. Je les ai découpées à la main sur du papier, et je fais jouer Benoît qui me fait bah, « en fait, je crois que je vais le faire, hein, parce que je l'aime vraiment bien ton jeu ». Et c'est ça qui me met à la fois le pied à l'étrier de « ok, bah, c'est possible de faire des jeux, et peut-être que moi je peux y arriver », et quand je postule pour mon premier boulot, j'ai ce petit background supplémentaire de dire, bah regardez, j'ai organisé des tournois, arbitré des tournois de Magic, et j'ai un jeu en cours d'édition, je sais comment ça se passe, peut-être vous pourriez m'engager.
Et donc c'est là que tu rentres dans une autre boîte, c'est ça?
Ouais, là c'est le moment où, quand on est auteur, c'est toujours, presque toujours comme indépendant. Donc là, quand je signe mon premier jeu, c'est vraiment un contrat, comme un contrat de d'auteur de livre, avec cet élément spécifique de, il n'y a pas de fidélité. Là où généralement un auteur ou une autrice de roman, quand il travaille ou elle travaille chez un éditeur, c'est un peu pour toujours ou pendant longtemps. Et puis quand machin part de Gallimard pour aller chez Flammarion, c'est le grand vrombissement. Les auteurs et les autrices de jeux, on bosse avec plein d'éditeurs différents à la fois, et il n'y a vraiment pas de fidélité, pas de stress sur ça.
C'est vrai que c'est intéressant, ça. C'est que j'ai un peu l'impression que les éditeurs de livres se disent bah nous on va travailler la notoriété de cette autrice ou de cet auteur, donc on va faire en sorte d'investir dessus et voire même de le verrouiller contractuellement, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, quoi. C'est un droit de fidélité, je crois que ça s'appelle, dans le
ouais un truc dans le genre, effectivement.
Qu'est-ce qui fait que ça se... Mais c'est aussi sans doute parce qu'il y a un côté vous êtes limite anonyme, quoi.
Ouais, il y a peu d'auteurs et d'autrices dont le nom est une plus-value commerciale. Il y a rarement des gens qui se disent « Ah, bah c'est le dernier jeu de Bidule, oh, je vais l'acheter parce que vraiment j'ai adoré ces autres jeux. » En partie parce que c'est pas un argument qui a été travaillé. Tu vois, il n'y a pas de... Je prends Antoine Boza, qui est un bon ami et un de mes auteurs préférés, qui a fait beaucoup de jeux qui ont très bien marché. Il n'y a pas écrit sur les boîtes de Takenoko, qui est un de ses gros succès, par l'auteur de Seven Wonders. Alors que ça serait un argument commercial, mais personne n'exploite un peu ce côté-là de « on le met en avant ».
Souvent, alors que parce Seven que c'est Wonders, des... tu vois, je connais pas beaucoup de jeux, mais je connais Seven Wonders, quoi. C'est
le jeu le plus primé au monde.
C'est
officiellement,
vrai.
Officiellement, d'après les stats, ouais.
Wow.
Qui est vraiment un excellent jeu, un très très beau succès. Je pense parce que c'est pas les mêmes éditeurs, donc il y a ce côté-là de, on va pas les mettre en avant, et puis parce que, ouais, il y a pas cette conscience et cette volonté de mettre en avant les personnes derrière la création. Il y a vraiment pas cette micro-starification, et par extension, elle est pas générée, donc elle s'auto-génère pas. À part pour quelques auteurs ou autrices, et c'est pour ça aussi que moi je suis dans cette logique de communication. C'est aujourd'hui à un tout petit niveau, hein, mais je pense qu'il y a quelques personnes qui peuvent s'intéresser à un jeu que j'ai créé parce qu'ils connaissent mon boulot, ou parce qu'ils connaissent ma tête, ou parce que j'en ai parlé. Et donc ça crée cette mini-importance-là. Je pense que ça vient aussi de... Les auteurs de livres sont souvent moins productifs que les auteurs de jeux de société en termes de l'intensité de travail et le temps de travail nécessaire. Tu vois, moi, j'ai fait des années où j'ai pu sortir 7, 8, 9 jeux la même année. Clairement, hein, la plupart des éditeurs ne peuvent pas sortir 9 jeux la même année, quoi, c'est pas possible. Et il y a aussi une diversification qui est plus forte. Pas chez tous les auteurs et autrices de jeux, mais moi, je peux bosser à la fois sur du petit jeu pour les enfants. Tu vois, j'ai fait un jeu qui s'appelle Mon premier jeu de Papa Fourmi, qui est un jeu coopératif pour les 3 ans. Et à l'inverse, j'ai fait un jeu qui s'appelle The Loop, qui est un jeu coopératif pour les adultes, où il faut bien, la partie dure bien une heure et demie, et il y a bien 20 minutes d'explication de règles. Clairement, ça touche pas le même public, quoi. Donc ça enlève un peu ce côté de « Oh, j'ai adoré mon premier jeu de Papa Fourmi, je vais acheter The Loop parce que c'est la suite de l'œuvre de l'auteur, quoi.
» Je comprends.
Mais c'est quand même un truc qu'on espère, qui arrive de plus en plus, et sur lequel on... Et par on, j'entends le milieu et notamment les auteurs et les autrices. On y travaille, quoi, avoir ce côté au moins au-delà de l'aspect marketing, au moins l'aspect reconnaissance, de se dire « Ah ouais, ce jeu-là, je l'ai bien aimé, c'est un jeu de bidule, j'ai un peu conscience de son nom, de ce qu'il a fait, et je peux un peu me pencher sur sa ludographie. »
C'est une vraie démarche consciente de ta part, quoi.
Oui, dire, moi, clairement.
Il est temps de, avec plein de guillemets, vous starifier un peu, quoi.
Ouais, au-delà de la starification, il y a vraiment ce truc de valorisation. Ça m'énerve énormément quand, et parce que les éditeurs ont été beaucoup mis en avant, et parce qu'eux, ils ont souvent une plus grosse ligne éditoriale, et c'est des acteurs avec plus de puissance, quoi. Mais ça m'énerve énormément quand on dit « Ah, découvrez le dernier jeu de Repos Productions, qui est une grosse maison d'édition, ou de Désoffondeur, ou... » Vraiment, ce côté, on va passer par l'éditeur, ce qu'on fait, à ma connaissance, pas dans aucun autre milieu, tu vois. Il y a,
ouais, c'est vrai.
Il y a vraiment cet aspect de « Si demain, je pense que... » Et on n'est vraiment pas à ce niveau-là, mais déjà dans les émissions qui parlent de jeux de société dans notre milieu, et si par extension, on devait avoir une chronique qui parlait de jeux de société dans des médias plus généralisés, ça serait une chronique qui serait gérée par les maisons d'édition et on inviterait machin, chef de projet chez Repos Productions, et pas Bidule, auteur de jeu chez Quotidien, quoi. Et ça, c'est un truc très questionnant et que je trouve assez problématique dans ce que ça raconte sur la paternité des jeux, de qui a créé quoi, comment est-ce que ça s'est passé. Et je trouve ça un peu dommage. Ouais.
Ok. Et donc, tu disais que tu rentrais dans le milieu, que tu as signé ton premier job, mais là, pour le coup, t'es pas côté auteur, t'es plutôt côté création du jeu, c'est ça?
Ouais, enfin... par la suite, effectivement, je bosse pour une boîte qui s'appelle Yellow, en tant que... alors pareil, c'est assez rigolo quand on parle du milieu du jeu, parce que c'est des micro-boîtes, et du coup, c'est un peu le bordel, et quand je suis recruté, je suis responsable des événements, slash en charge du service après-vente, slash chef de projet. Donc vraiment, j'ai les trois casquettes à la fois.
Ça va tout faire.
Et c'est parti, je dois gérer un peu tout ça. Notamment sur la partie chef de projet, je m'occupe entre autres du filtre de recherche de nouveaux jeux, qui est un truc qui est vraiment important dans le milieu, ce qu'on appelle le sourcing, de des gens qui créent des jeux, il y en a beaucoup, des gens qui proposent des jeux à des maisons d'édition, il y en a plein, et donc faut quelqu'un qui filtre un peu, qui regarde, qui voit s'il y a quelque chose d'intéressant dans les propositions, et puis qui discute ensuite avec les auteurs et les autrices pour avancer. Et donc ça, c'est un de mes jobs à ce moment-là, c'est vraiment gérer ça. En plus de gérer les gros festivals, les gros salons, et les gens à qui il manque un cube dans leur King of Tokyo et qui nous envoient un mail. Quoi. Et à ce moment-là, moi, j'ai vraiment ce truc de... Je suis pas encore vraiment auteur dans ma tête. J'ai fait un jeu, il marche pas très bien, mais il est allé au bout, je suis content. Mais je me dis, peut-être que j'ai eu de la chance et que j'en ai fait un, et puis j'en ferai jamais un deuxième. Et puis, en fait, un, peut-être c'est pas grave, et deux, peut-être que j'y arriverai pas et en faire un autre, et tant pis, quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont sur ce modèle-là de... Ouais. J'ai créé un jeu, c'était mon idée du moment, et puis... j'ai pas spécialement d'autres idées plus tard.
Oui, j'allais te dire, c'est souvent le deuxième le plus dur à faire, quoi.
Et là, moi, clairement, ça a été le cas en parallèle de mon boulot, les soirs, je bosse sur mes protos, j'avance sur des trucs. Et en même temps, c'est aussi un moment de ma vie où j'acquiers justement une culture ludique assez importante j'avais joué à pas mal de trucs, j'avais une conscience de comment ça marchait, mais j'ai 22 ans à ce moment-là, 23 ans. Et j'ai pas joué à tous les jeux du monde, il y a plein de jeux qui me manquent, il y a plein de rêves que j'ai pas, et donc je bouffe de la rêve ludique à longueur de temps, je lis des livrets de règles, je regarde des vidéos qui parlent de jeux pour vraiment augmenter mon panel de culture et de connaissances ludiques, et je bosse sur plein de protos et il y a rien qui va, quoi. Vraiment, tout ce que je fais, c'est un peu moyenasse, il y a rien qui me satisfait pleinement, et je mets pas mal de temps à réussir à avoir un concept de deuxième prototype qui me plaît vraiment et que j'arrive à présenter chez un éditeur et à trouver un éditeur qui accepte de le faire. C'est étonnamment, le deuxième était vraiment beaucoup plus dur que le premier.
Ok. Et tous tes prototypes là que t'aimes pas trop, etc., tu les montres quand même à des éditeurs ou non? Tu
non.
Les gardes pour toi?
Ouais, vraiment. Moi, ma manière de bosser, c'est que je suis plutôt... Il y a un peu deux grandes familles d'auteurs et d'autrices sur ces idées-là. Il y a des gens qui font très très vite une première, donc un prototype, une maquette, un premier objet pour pouvoir jouer. Et il y en a qui intellectualisent énormément le processus. Et moi, je suis vraiment de ceux qui, très vite, j'ai besoin de découper des choses, de mettre les mains dans le cambouis, de lancer des dés pour voir à quoi ça ressemble. Et donc, des protos nuls, j'en fais vraiment, à ce moment-là, j'exagère presque pas, mais je pense, 2-3 par semaine, quoi. Je me pose, j'ai un concept, je fais un proto, je regarde, je joue un peu tout seul, je bouge un peu les choses, puis c'est nul à chier, et puis je le jette, et puis je fais autre chose. Qui est en même temps un conseil que je donne énormément aussi aux jeunes auteurs et autrices qui débutent, faites plein de trucs nuls, c'est pas grave. Déjà, en fait, c'est valable et vous n'avez pas à vous sentir mal de faire des protos nuls. Et en fait, vous allez vachement progresser. Et je pense qu'un des trucs qui fait que derrière, je me sens plus à l'aise plus rapidement que ce qui aurait pu se passer, c'est parce qu'à ce moment-là, j'acquiers pareil de l'expérience très très vite en essayant, en échouant énormément, mais en y allant, quoi, vraiment en posant des petits jeux très régulièrement.
Ok. Tu restes combien de temps là
Je reste 2 ans chez Yellow.
Ok, d'accord. Tu passes chez Repos aussi, c'est ça?
Non, je bosse avant. J'ai une toute petite infidélité où je travaille pour une boîte qui s'appelle Yoka by Tsume, qui est un éditeur luxembourgeois qui, au départ, est spécialisé dans les figurines de luxe de manga et d'animé.
Ok.
C'est vraiment Cyril, le patron de la boîte, a un peu compris. Il le dit pas en ces mots, mais que les geeks qui étaient fans du Club Do, voire les geeks qui étaient fans de Naruto, aujourd'hui ils sont banquiers, donc en fait acheter une très très belle figurine à 800 balles, c'est ok en fait. Et donc leur cœur de métier, c'est vraiment produire des ultra belles et ultra luxueuses figurines, statues même plus que figurines, de manga et d'animé. Et à ce moment-là, ils veulent se lancer dans le jeu de société à licence principalement, avec ces licences-là. Et ils m'engagent pour être à la fois sur un peu de game design, et puis pas mal de... je sais un peu comment se passe le milieu, ils savent pas spécialement, et donc de les mettre en contact avec les gros festivals, les boutiques, discuter de tous ces aspects-là, et donc les accompagner un peu sur le départ.
D'accord.
Et je reste 4 mois chez eux.
Ah oui, c'est rapide.
Qui est le temps de ma période d'essai, en fait, à vrai dire. Parce que à ce moment-là, il y a Repos Productions qui fait toc-toc, qui disent « Ah, on cherche quelqu'un pour être assistant éditorial, est-ce que ça te brancherait pas ?» Et moi, vraiment, Repos Productions, c'est le boss de fin de niveau de ma carrière dans ma tête, quoi. C'est un éditeur dont j'apprécie énormément les jeux. Ils ont fait Seven Wonders, Concept, Time's Up, Ghost Stories, vraiment des jeux qui sont parmi mes jeux préférés. Et c'est un éditeur dont j'apprécie énormément les personnes qui l'ont créé, quoi. Cédric Comont, Thomas Prost. C'est vraiment 2 personnes que j'ai vues en interview, que j'ai croisées sur des salons. Et ils ont l'air de ouf, quoi. C'est des gens qu'on, ouais, j'ai envie de travailler avec très, très clairement. Ce qui m'amène à partir de Tsume un peu rapidement, quoi. Ça se passait correctement. C'était pas un job parfait, mais ça se passait globalement correctement. Et je suis un peu déchiré à ce moment-là de pardon, vous pouvez pas faire le poids, vraiment, c'est mon boulot de rêve. Mais je serais bien resté parce qu'il y avait plein de trucs chouettes, quoi.
Donc tu vas là-bas.
Et donc je vais là-bas à Bruxelles.
Pour le coup, assistant éditorial.
Ouais.
C'est quoi, c'est un peu c'est la ligne, c'est toi qui travailles sur la ligne édito des.
Non,
de la boîte,
pas tant,
c'est ça
pas tant que ça. Ils sont quand même, Cédric et Thomas étaient des patrons très 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 impliqués.
Ok.
Je le dis au passé parce que je suis parti et ils ont revendu leur structure il y a quelques années maintenant, il y a 2 ans. Mais non, je suis plus là pour. C'est presque le boulot de chef de projet que j'assumais chez Yellow. Donc à la fois récupérer des nouveaux jeux, être en relation avec les auteurs et les autrices avec qui on travaille, et puis faire un peu de développement mécanique, de se dire tiens, on joue beaucoup à Seven Wonders et on a un problème. Il y a telle merveille, elle gagne tout le temps parce qu'elle est plus forte. Il faut qu'on accompagne Antoine, l'auteur, vers t'as essayé telle piste, t'es allé un peu dans telle direction, et vraiment donner des conseils et accompagner les auteurs dans le développement. Et cette dimension de sourcing, ouais, qui est vraiment importante, d'essayer de trouver les nouveaux jeux. Au final, chez Yellow, c'est un peu le même boulot, la gestion de projet. Si ce n'est que Repos étant une plus grosse structure, il y a 2 éléments que j'avais à charge et que j'ai plus à charge à ce moment-là sur les projets, qui est la production, donc vraiment la gestion avec les usines, de vérifier les fichiers, etc. Puisque chez RoboProd à l'époque, et toujours maintenant, il y a un chargé de production qui s'occupe de ça à temps plein. Et la direction artistique, trouver l'illustrateur ou l'illustratrice, échanger avec eux, faire les briefs, qui pareil, chez Repos Production, il y a toujours un directeur artistique qui s'occupait de cette partie-là. Donc je perds un peu ces 2 côtés-là pour être vraiment plus centré sur la recherche de jeu, la relation avec les auteurs, autrices et vraiment le développement mécanique.
Et tu continues à créer des protos, à écrire des jeux, etc.
Ouais, tout à fait,
etc.
Ouais.
À côté.
Ça reste un truc important, et chez Repos Production, je pense que c'est le moment où je commence à le faire un peu sérieusement. C'est-à-dire que là où avant c'était un peu « Oh c'est mon hobby un peu chouette et puis c'est parti, je fais des jeux de temps en temps » et puis déjà à cette époque-là j'ai quelques jeux qui se signent et quelques jeux qui sont en cours d'édition, mais ça reste un petit truc que je fais quand j'ai un peu l'envie, quoi. Et chez Repos Production, ça commence à être en fait je rentre du boulot et puis il est 17h et en fait de 17h à 19h je vais faire mon deuxième job qui est bosser sur mes protos et travailler sur mes jeux. Et après, ma journée, elle sera finie. Mais je rajoute ce temps-là presque comme un temps de travail, ou du moins un temps où si jamais j'ai vraiment pas envie, je le fais pas. Mais si jamais je suis un peu genre, j'ai la flemme, je regarderai bien une série. Non, en fait, je vais bosser un peu mes protos au moins pendant 1 heure pour avancer, quoi.
T'as la sensation qu'avec le recul, que t'es aussi en train de te construire une ambition d'auteur de jeu à l'époque?
Ce qui est clair, c'est que c'est un moment où je commence à me dire... Ok, la possibilité d'éventuellement un jour que ça soit mon job à temps plein, j'ai envie d'essayer de l'apprendre. Donc je sais pas si l'ambition c'est le bon mot, mais il y a une volonté de se dire ok, c'est maintenant et c'est le bon moment pour moi pour y aller vraiment à fond, pour essayer de transformer cet essai là et de se dire que bah si jamais ça peut être mon boulot à temps plein, c'est parti, ça sera le truc quoi.
Qu'est-ce qui te fait dire qu'est-ce qui te fait dire que en fait c'est un truc que t'aimerais bien faire à plein temps, tu vois ce que je veux dire ou pas?
Ouais. Il y a vraiment le plaisir avant tout, je pense, c'est assez bien résumé, je crois, mais c'est un peu bêtement résumé, pardon, mais c'est, bah, en fait, quand je travaille sur des jeux, je suis assez heureux. Il y a ce truc de, je suis content, ça m'apporte vraiment de la joie et du plaisir et de c'est très très chouette. Je suis aussi assez vite bien entouré de co-auteurs et de co-autrices, plutôt de co-auteurs à cette époque-là, d'ailleurs, pour être complètement franc, et je rencontre plein de gens et je me dis, bah, en fait, faire un jeu à deux avec Corentin Lebras ou avec Antoine Boza, avec Ludo Maublanc, bah, wow, c'est trop bien de bosser avec des gens et d'échanger sur ça. Et il y a aussi un truc très très cliché de millennials, mais je suis l'enfer à manager quoi. Et je me rends compte et je commence à prendre conscience parce que RoboProd c'est le troisième boulot dont je pars après 2 ans. 4 mois pour Tsume, mais c'est le troisième boulot que je pars en 5 ans. J'ai fait 3 jobs différents, ce qui est quand même beaucoup, j'ai l'impression. Et un peu pour les mêmes raisons quoi. Les réunions un peu inutiles, ça me fait chier. Devoir répondre à une autorité suprême alors qu'il y a un côté de je pourrais être indépendant sur des trucs et ça marcherait bien. Vraiment, je suis un peu le cliché de tous les trucs un peu relous, de j'aime pas qu'on me dise de faire comme ça si j'ai pas envie de faire comme ça, même si des fois j'ai un peu tort, je fais des fois un peu la mauvaise tête, je suis un peu têtu. Et je me dis, bah en fait, je crois que je suis pas spécialement fait pour bosser dans une boîte. Et quand je pars, il y a vraiment ce constat-là de se dire, bah en fait, il faut que je fasse un truc où c'est moi qui me gère parce que je crois qu'à part par moi-même, je suis un peu ingérable. Il va falloir que je prenne cette route-là. Et quand je décide de partir, c'est à la fois pour faire de la création, à la fois avec cette idée de se dire, bah, je vais peut-être proposer des services de développement de jeu en tant que Théo Rivière indépendant, parce que bah, si jamais c'est des contrats et c'est parti, je pense que là, j'arriverai à le faire et que ça me plaira plus. Quoi.
Tu finis par faire ça pendant quelques années ou alors tu montes tout de suite
On monte tout de suite Kaedama, ouais, tout à fait. À l'époque, je suis déjà très pote avec Antoine Ludovic Corentin, donc qui sont mes 3 associés sur Kaedama, et je leur partage ça. Avant de partir de chez RoboProd, je suis déjà un peu à la fois à vider mon sac et à partager avec eux quand ça se passe pas bien et quand je suis mécontent, et à la fois à discuter de je pense que je vais partir, il faut que je trouve un plan B parce que j'ai quelques jeux en cours d'édition, mais financièrement, ça va pas payer mon loyer, c'est sûr, et c'est vraiment pas stable. Donc il faut que je trouve un moyen de faire un truc. Et je me dis, peut-être que monter ça et partir, c'est une bonne idée, quoi. Et je leur en parle un peu en mode, vous les gars, qu'est-ce que vous en pensez, quoi. Et je me souviens parfaitement.
Les 3, pour expliquer, sont des créateurs de jeux aussi.
Ouais, tout à fait. On est tous les 3, ils sont tous les 3 auteurs également. Avec, en plus, Antoine et Ludovic, qui sont des auteurs à gros succès, quoi.
Antoine Boza, dont tu parlais un peu plus tôt.
Tout à fait. Mmh. De Seven Wonders, Seven Wonders Duel, Hanabi, Takenoko, Tokaido. Vraiment, c'est un des auteurs les plus importants. Du jeu de société contemporain de manière assez certaine, et en plus un bon copain à ce moment-là, quoi. Ce qui montre aussi que le milieu est super ouvert, super accueillant, et c'est quelqu'un avec qui j'ai eu déjà beaucoup de plaisir à partager. Et c'est Antoine d'ailleurs qui, dans cette conversation, on a, je pense, une conversation Messenger à l'époque à 4, où on s'envoie un peu nos états d'âme, on discute un peu du milieu, on bitch un peu quand on a besoin de bitcher, et on se raconte des belles anecdotes quand on en a. Et je dis je pense que je vais partir, je vais monter ça. Et c'est Antoine qui dit toi, on fait un truc tous les 4. Et il y a vraiment ce truc de wow, vraiment là, oui, en fait, moi je t'admire énormément et je t'estime beaucoup. Donc, si je peux faire un truc avec toi, Antoine, et avec Ludovic, que j'admire énormément, et avec Corentin, qui a une carrière un peu plus petite à ce moment-là et que j'apprécie beaucoup et j'admire son talent, mais il n'y a pas ce côté de c'est pas une rockstar dans ma tête à ce moment-là, moi, monter un truc avec vous, c'est le rêve, quoi. Et on monte Kaedama vraiment à partir de ça, quoi, de moi qui veux partir et Antoine qui dit vas-y, on le fait ensemble, quoi. Et donc, ça part de rien, quoi, pour le coup.
Alors que lui, fondamentalement, il n'a pas forcément besoin de toi, de monter cette structure, etc. Qu'est-ce qui lui donne, j'imagine que vous en avez déjà discuté, mais qu'est-ce qui lui donne envie, lui, à ce moment-là, de venir s'associer avec toi, alors que tu es un pipou dans le milieu?
On en a un peu parlé, mais Antoine, c'est quelqu'un qui partage pas trop ses émotions, ses trucs. Il est plus âgé que moi, il a 43 ans. Il partage un peu moins ce truc, donc des fois il est un peu secret sur ça. Mais clairement, c'est en même temps, et on le voit dans sa manière d'être plus que dans ce qu'il exprime, quelqu'un qui a la volonté d'aider les autres de manière extrêmement forte. Donc effectivement, lui, il a pas besoin de la structure d'un point de vue financier pour sûr. Il a pas spécialement trop envie de bosser non plus. Antoine, c'est quelqu'un qui est plutôt relax. Je pense qu'il le fait pour Corentin et moi, en fait. Devic a aussi un peu ce côté-là de, il a pas spécialement besoin de bosser non plus, il est un peu moins relax qu'Antoine, mais il est plutôt relax. Ludo, je pense qu'il y a plus un truc de, c'est un bon camarade en fait, Ludo, donc on est en train de monter un truc, bah il suit parce qu'il a envie de suivre et qu'il va passer des moments avec nous. Mais je pense vraiment qu'Antoine, il y a un côté de, bah je vais aider les deux petits là, et je les aime bien, et peut-être qu'il se dit, bah ils ont peut-être du potentiel, donc bon, c'est parti, je leur donne un coup de main, on monte la structure ensemble. Ils vont pouvoir travailler avec moi et jouir un peu de mon aura dans le milieu et de mon savoir-faire. Et en plus, bah, ça va être chouette, on va bien s'amuser, quoi.
Donc, ce que tu veux dire, c'est que Antoine et Ludovic, aujourd'hui, enfin, à l'époque, et sans doute encore aujourd'hui, gagnent leur vie à plein temps grâce à leur jeu, c'est ça?
Il y a ouais, un tout vrai... à fait. Ouais.
Comment se passe le système de rémunération pour les auteurs et les autrices de jeux?
Alors, c'est presque pas compliqué, mais nous, on touche un pourcentage. Il y a deux méthodes de calcul et je vais prendre la plus simple, qui est tout petit sur le prix de vente public hors taxe du jeu. Ce pourcentage, il est assez faible puisqu'il est généralement entre 3,12 et 3, allez, 4, entre 3 et 4% de ce que la personne a payé au magasin de jeu. Donc quand vous achetez un jeu qui vous a coûté 20 euros, nous on va toucher entre 3 et 4% de ces 20 euros. La méthodologie de calcul, et c'est ça qui complexifie un peu le rapport financier au truc, c'est que nous on va recevoir des relevés de vente. Donc le nombre d'exemplaires qui a été vendu. Ces relevés, on va les recevoir très rarement tous les trimestres, chez la plupart des éditeurs tous les semestres, et chez quelques éditeurs tous les ans. Une fois qu'on a reçu ces relevés de vente, nous on va éditer une facture, donc la fin de la période, les éditeurs ont généralement 2-3 mois où ils font les comptes, puis ils t'envoient le truc, toi t'envoies ta facture, et 2-3 mois plus tard, généralement t'es payé. Bon, il y a des éditeurs incroyables où rubis sur l'ongle, t'envoies ta facture et 5 jours plus tard, l'argent a été versé sur ton compte. Et vous en doutez, et tu t'en doutes aussi, il y a des gens où bah, ils font traîner jusqu'au dernier moment, et c'est un peu relou.
C'est une économie très décalée dans le temps, en fait, ouais, entre le truc que vous produisez, l'argent que vous touchez. C'est...
Clairement, surtout qu'il y a, il y a l'aspect aussi durée d'édition d'un jeu, qui, elle, est très variable, mais peut être très longue, et qui est rarement de moins de 18 mois. Donc c'est-à-dire que si moi, là, demain, imaginons, je vais voir un pote, et hop, on bosse sur un concept de jeu, c'est génial, on arrive à le faire très très vite, et en un mois, on a fini le jeu. On le présente aux éditeurs, bam, ça se passe super bien, en deux semaines on a trouvé le jeu. Il va falloir qu'on attende derrière, imaginons, 18 mois, et 18 mois c'est le scénario un peu idéal, pour que le jeu sorte en boutique. Puis la fin de la période de trucs, donc imaginons que le jeu soit sorti en janvier, jusqu'au mois de juin pour avoir les relevés de trucs, enfin la fin de la période, puis 2 mois pour avoir les relevés, puis 2 mois pour être payé, donc nous on est payé 3 ans plus tard. Et j'ai des jeux qui ont mis parfois 5 ans à sortir. Donc c'est des trucs que moi j'ai, sur lesquels j'ai bossé... des fois en 2015 pour être payé en 2020, quoi.
Waouh. Et t'arrives à garder la pêche avec ça parce que c'est un temps tellement long.
Ça impose des fois de devoir se réenchanter sur certains jeux. Et je sais que j'ai des jeux, ils sont sortis, il y avait un truc de... Je sais plus, en fait. Je sais plus jouer à mon propre jeu, j'ai fait 200 protos depuis, je sais plus si c'est bien, j'ai plus le truc en tête. Et généralement, en tout cas pour l'instant, moi ça s'est un peu toujours passé, les premiers retours des joueurs et des joueuses me remettent dedans. Il y a quelqu'un qui commence à dire « Ah, j'ai joué, ça m'a plu », tu dis « C'est vrai que c'était bien, en fait, je crois, parce que oui, si je l'ai signé et si je l'ai bossé, en fait, c'est parce qu'il y avait un truc que j'aimais bien. » Et ça te remet dedans, c'est un moment où, généralement, tu vas rejouer un peu en festival, tu vas représenter le jeu, tu vas le réexpliquer. Et généralement, ça me remet dedans en termes d'énergie. Mais souvent, ouais, le moment de la sortie, c'est un moment... Moi, je rejoue pas à mes jeux une fois qu'ils sont sortis, par exemple, parce que ouais. c'est presque trop tard, je suis un peu passé à autre chose, quoi, pour le coup.
On en parlait un peu rapidement au moment où t'es arrivé chez moi, mais il y a un vrai truc aussi qui doit être compliqué pour toi, c'est que quand t'as fini par faire de ta passion ton métier, ça doit être compliqué, non, de revenir et de garder un peu une forme d'âme d'enfant par rapport à un truc qui est quand même un jeu à la base, quoi.
Ouais,
t'es un professionnel maintenant, tu vois tout, t'es dans la matrice, quoi.
Il y a de ça, et clairement c'est plus dur qu'au début, notamment sur des fois des petits trucs nuls qui sont pas très importants et qui moi vont me faire vriller très très fort. Notamment parce que Antoine, qui m'a appris énormément de choses, est très très sensible à l'ergonomie, et donc il m'a transmis un peu ce truc là et des fois je peux pas apprécier une partie d'un jeu parce que je me dis oui, mais attends, ce pictogramme là qui dit prenez un cube bleu, pardon, mais il est pas très clair, hein. Moi j'ai l'impression qu'on en prend deux là, des cubes, hein, vu à quoi ça ressemble, quoi. Alors que c'est pas important, c'est pas très grave. Et donc j'ai eu tout un moment où vraiment je ronchonnais trop, et Kaedama d'ailleurs est né un peu de ça aussi, où à un moment on ronchonnait tout le temps sur tous les jeux, tous les quatre, quand on jouait vraiment. J'aime Antoine, Ludovic et Corentin comme des frères. Ne jouez pas avec nous quatre à la même table, quoi. C'est l'enfer, quoi. Vraiment, on est les pires personnes avec qui jouer si on est tous les quatre. Parce que vraiment, on va s'énerver sur tout le moindre petit détail.
Vous êtes devenus tellement experts.
dans le truc.
Ouais, et puis on est des râleurs aussi, tu vois. Il y a vraiment ce truc de on va râler sur sur tous les petits trucs. Et c'est un peu ce constat-là aussi, à un moment, de dire, bah, en fait, nous, on a le sentiment qu'on voit des trucs d'ergonomie et de game design qui nous insupportent et qui sont importants. Et on n'en fait rien, en fait, de ce truc-là. Peut-être qu'on peut proposer aux éditeurs de leur transmettre un peu l'information et d'échanger avec eux. Parce que, bah, si nous, on voit des trucs, a priori, et on n'a pas toujours raison, mais il y a sûrement quelque chose à transmettre à l'éditeur pour qu'il avance sur ça. Néanmoins, à un moment, j'ai conscientisé un peu cet aspect un peu râlerie et j'ai essayé de me réenchanter. C'est-à-dire que volontairement, je me suis dit, je vais arrêter de faire ma sale gueule, je vais arrêter de me dire que tous les jeux sont nuls, je vais arrêter de pas avoir envie de jouer au moment où je m'installe sur une table et où je me dis, on va jouer à ça, et je fais, ça a l'air nul en fait, quoi. Non, je vais me dire, ok, ça a l'air bien, j'ai envie de jouer, je vais passer un bon moment, peut-être que ça sera pas le meilleur jeu de l'année, et en fait, on s'en fout un peu, et vas-y, je m'amuse en fait, quoi. Et ça a un peu marché. On en parlait, je l'ai un peu reperdu là en ce moment. Il faut que je réinjecte un peu d'énergie dans tout ça. Mais ça a plutôt marché à un moment de se dire, bah, en fait, je vais arrêter de chercher la petite bête et je vais plutôt chercher ce qui me plaît dans ma partie. Et je vais essayer de jouer le jeu du jeu et je vais aller dans la direction que le jeu m'emmène plutôt que bloquer sur un mur en me disant non, ça me plaît pas parce qu'il manque un truc, quoi.
J'ai surtout un peu l'impression maintenant que je t'écoute que l'un des trucs qui fait aussi que t'as aimé le jeu, c'était le fait de partager quelque chose avec quelqu'un autour d'une table, quoi.
Ouais, ça c'est le truc le plus important et c'est un truc qui est crucial dans le jeu de société, même pour nous aujourd'hui, dans la manière dont on bosse dessus et dans la manière dont j'envisage le truc. Et il y a des jeux où j'ai fait des parties, une première partie où j'ai trouvé le jeu horrible, je me suis ennuyé, c'était nul, et j'ai rejoué parce qu'on m'a dit mais si, en fait c'est bien, tu te trompes. Et j'ai joué avec d'autres groupes de joueurs et joueuses et j'ai trouvé ça super. Parce que, je sais pas, la partie, c'était pas le bon mood. Tu joues avec un couple qui s'engueule un peu parce que y a quelqu'un qui fait une crasse à quelqu'un d'autre, parce que, je sais pas, t'es un peu mal réveillé, parce que tu perds, ou parce que t'as loupé un tout petit point de règle, des trucs. Et vraiment, les personnes autour de la table, et c'est marrant parce que ça demande du coup un certain lâcher prise par rapport à ce que moi je produis, parce qu'il y a un côté de, moi je suis pas là pour faire jouer les gens, et donc bah, des fois ça ne marchera pas parce que la table n'a pas réussi à attraper le jeu. Mais les gens autour de la table font une grosse, grosse partie du plaisir et de l'expérience de jeu, c'est sûr.
Oui, je voulais te parler de ce fait-là, de vous créer cette société avec tes trois comparses. L'objectif, c'est quoi? C'est de, effectivement, donner des... Vous n'êtes pas éditeur, hein. Votre objectif n'est pas de devenir éditeur, c'est vraiment de continuer à créer des jeux et à filer des coups de main, c'est ça, aux éditeurs?
Ouais, on a trois grandes missions. Trois grands trucs qu'on propose et qu'on fait à ce moment-là. La première, c'est une notion de consulting, qui est vraiment l'idée des maisons d'édition principalement vont nous engager pour une ou deux journées, et puis nous, on va mettre notre savoir-faire et nos services dans leurs mains pour faire des choses, souvent pour faire du développement. Donc c'est, bah, ils ont un jeu et puis il y a un vrai problème de, je sais pas, c'est toujours le premier joueur qui, la personne qui commence, qui va gagner. Et donc, bah, on va rejouer avec eux. Souvent, on essaie de se retrouver. Antoine a monté un atelier à Valence, en France. Et donc, souvent, on se retrouve à Valence, on se pose, et puis on va jouer, changer des choses, jouer, changer des choses pendant une journée entière. Mais ça peut aller dans d'autres directions. On s'est retrouvé avec un éditeur qui avait, je sais pas, 4 ou 5 jeux, qu'il hésitait à éditer. Et on s'est posé avec lui en mode, bah vas-y, on joue aux 5 jeux, et puis ah bah celui-là, attention, il y a ça qui existe et c'est peut-être pas terrible. Ludovic, entre autres, a une culture ludique démentielle, il connaît tous les jeux obscurs sortis qu'en Autriche en 2004 à 50 exemplaires, donc il y a un truc où
il peut vraiment... Que toi, donc.
Ah ouais, clairement, quoi. Et il peut vraiment sortir des obscurs rêves de trucs. Et donc, bah, on s'est retrouvé à jouer à tous ces jeux-là et à dire, bah voilà, celui-là, nous, dans votre situation, on l'éditerait pas parce que par rapport au marché, il y a tel problème, etc. Celui-là, c'était vraiment très 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 bien, donc peut-être faites-le parce que c'était cool. Donc ça, c'est vraiment le consulting où on peut partir dans des missions un peu diverses et variées. On a une mission de développement qui là est vraiment, il y a un auteur ou une autrice derrière un jeu, qui a créé un jeu, il y a ce problème qui est important de nouveau, il y a un problème qui a été identifié par l'éditeur de, bah, le jeu est trop long par exemple, ça dure une demi-heure de trop et c'est chiant, la fin du jeu est pas terrible, il faudrait que ça dure une demi-heure de moins. Et nous, on va prendre le jeu comme si c'était le nôtre, en accord bien sûr avec l'auteur et l'autrice, et puis on va faire un processus de création, d'itération, de se dire, bah, tiens, on va enlever ça, on va changer ça, mais en gardant en tête que la promesse ludique et l'expérience, c'est pas nous qui la décidons. Si on trouve que le jeu est trop chaotique et que on trouve qu'il y a, voilà, par rapport à ce que nous on aime, il y a trop d'interactions directes, on se fait trop de méchanceté dans le jeu, si c'est le propos du jeu, c'est pas à nous de juger qu'il faut enlever cette méchanceté-là, c'est l'auteur ou l'autrice qui l'a choisi. Donc nous, on corrige le problème. Donc vraiment, on développe dans ce sens-là. C'est un truc qu'on fait assez peu aujourd'hui, parce que en fait, ça demande des dizaines de milliers d'heures pour réussir à trouver les problèmes quand des fois ils sont durs à déterminer. Et en même temps, c'est très très difficile pour nous de savoir comment on facture et comment on gère l'aspect financier de ça. Les maisons d'édition, c'est des petites structures. Donc si on leur dit, bah cool, nous on a vu, on pense qu'on en a pour 3 mois de travail, donc on va te demander 15 000 euros. C'est impossible pour une maison d'édition de sortir ça. Donc régulièrement, on a touché des tout petits pourcentages de royauté sur des jeux. Et en fait, c'était tellement de temps par rapport à ce qu'on a gagné. Aujourd'hui, on le fera vraiment que si on a un coup de cœur sur un projet et de se dire, ok, ce jeu-là, on a envie de bosser dessus parce que, je sais pas, la maison d'édition, ils sont adorables, l'auteur ou l'autrice, c'est vraiment des gens super, ou on a un petit coup de cœur pour le jeu, on a envie d'y jouer tout le temps et c'est parti, on va y aller. Mais c'est vraiment pas un truc qu'on fait régulièrement aujourd'hui. Et la dernière chose, c'est ce qu'on appelle le jeu de commande, qui là peut partir par jeu, on peut aller dans plein de directions, à la fois du jeu de société, mais on a fait un peu d'escape room, un peu de soirée enquête, de murder party, ce genre de choses. Ou à partir d'un cahier des charges, qui peut être extrêmement variable, on va imaginer un jeu en tant qu'auteur, et on va le proposer à la maison d'édition pour qu'il édite à la fin. Ça peut aller de... Le truc le plus foufou qu'on ait fait, c'est qu'on a fait un jeu de formation pour Royal Canin, sur l'apport en micro et macronutriments dans l'alimentation pour les chiens et les chats, où clairement c'est un bon exemple de jamais on aurait dit oui à ce projet-là, si ce n'est qu'on a rencontré une veto et une chef de projet, et les deux femmes étaient vraiment super, elles nous ont vraiment beaucoup plu, elles étaient géniales, elles aimaient beaucoup les jeux, elles connaissaient bien le truc, elles avaient vraiment les pieds sur terre, on s'est dit bah cool, on va bosser ensemble et ça va être bien.
Trop bien.
Donc on a fait ça, mais qui est un jeu qui a été édité derrière à 5 exemplaires et uniquement pour les formations de Royal Canin, quoi, qui s'appelle Gamel Quest. on fait des jeux, on a fait
Gamel
mal de jeux.
Quest, c'est
très bon nom. Vraiment, on s'est dit comment on appelle ce truc? Ah bah si on l'appelle Gamel Quest, ça va jamais rester. Et c'est resté jusqu'au bout, quoi. Ce qui montre notamment le fait que les deux gestionnaires du projet étaient vraiment délire
trop
de
cool.
Se dire, bah ouais. oui, c'est un jeu, on va appeler ça Gamel Quest, quoi. Et derrière, on a fait pas mal de jeux avec des, enfin pas mal, on a fait quelques jeux avec des licences. Qui est un éditeur, une maison d'édition qui va dire bah, j'ai accès à la licence, on a fait 4 jeux Naruto par exemple, je suis un grand fan de Naruto donc ça aide, mais c'est la maison d'édition avec qui on a bossé qui a dit bah, j'ai accès à la licence Naruto, je vois que vous connaissez pas mal, ça vous dit vous faites un jeu dans l'univers, et donc ça c'était notre cahier des charges. Ou là qui sort dans les semaines qui viennent, on a fait un jeu sur James Bond avec Spectre, les méchants. Pareil, c'est une maison d'édition britannique qui nous a contacté en disant bah, on a l'opportunité de faire un jeu de James Bond, est-ce que vous, ça vous intéresserait de le faire? Et ça peut être à partir de tout et n'importe quoi sur ça. On s'est aussi retrouvé Draftosaurus, qui est notre jeu qui a le mieux marché à tous les quatre. C'est Ankama qui nous contacte à un moment-là. Plutôt, on discute avec eux d'ailleurs, plus qu'ils nous contactent, parce qu'ils ont le tooling, ils ont l'outillage pour faire des petits pions de dinosaures tout à fait mignons. Et ils se disent, bah, tiens, il y aura un deuxième jeu, ils en avaient déjà fait un premier, à faire avec ces dinosaures-là. Si ça vous branche, faites-le et c'est parti, quoi.
Ankama, qui est historiquement l'éditeur du jeu vidéo,
ouais.
Dofus.
Tout à fait, ouais.
Qui a
cartonné de ouf et qui, à un moment, a fait un peu moins maintenant. Tout n'a pas marché globalement à la hauteur de ce qu'ils avaient espéré, je pense, mais qui ont créé Ankama Board Game, qui était une structure séparée de Ankama, mais dans les mêmes locaux, mais une nouvelle structure pour faire vraiment du jeu de société. Au départ, avec Crossmaster Arena, qui était un jeu dans l'univers de Dofus, justement, avec des très belles figurines, qui a une carrière qui a monté, mais qui malheureusement s'est arrêtée après quelques années. Et après, éditer des jeux plus classiques, pas forcément dans leurs univers, dont Draftosaurus, qui est pour eux aussi leur plus beau succès aujourd'hui, je pense.
Ok. Donc vous êtes. Vous continuez à créer. Donc vous créez des jeux à 4,
ouais,
si j'ai bien compris, mais vous continuez aussi à créer des jeux séparément en tant qu'auteur.
Ouais, tout à fait. Et même parfois ensemble.
Ensemble, ouais.
On n'a pas refait de jeu, je pense, tous les quatre en dehors de Kaedama, mais si demain on est posé, on a une idée spontanée qui n'est pas une commande, et qu'on fait un jeu tous les quatre, il passera pas par la structure, il passera par nous en tant qu'auteur indépendant.
Ok.
C'est vraiment Kaedama est là pour répondre uniquement aux jeux de commande et aux différentes missions.
Ah oui, vous avez...
On a segmenté pour éviter un peu le bazar de qui fait quoi, comment on le gère. Et à l'inverse, de la même manière, on a aussi segmenté sur toutes les commandes qu'on nous propose à tous les quatre individuellement sont répondues d'une même voix par Kaedama et pas par nous-mêmes. Pour éviter, même si on a une grande confiance envers tous les quatre, mais oui, qu'à un moment, quelqu'un se dise « Ah bah, j'ai Disney qui me contacte pour faire un jeu Avenger. Bon, c'est le meilleur bail du monde. Vas-y, je vais le faire tout seul plutôt que le faire à quatre, quoi. » Bon, j'ai aucune crainte que ça arrive un jour, mais néanmoins, il y a ce côté un peu propre de dès qu'on nous propose une commande, c'est Kaedama qui y répond.
Ok. Et en fait, l'une des questions que je voulais te poser aussi, c'est quoi les jeux que tu pourrais conseiller aux gens, je sais pas, si t'as 3 jeux par exemple en ce moment, de façon un peu, parce que t'as toujours des super recos.
C'est vrai que tu m'as déjà poké sur. J'adore faire ça, hein, c'est un vrai plaisir de.
C'était trop bien d'ailleurs.
On voyait pas tous des demandes hein, si on se connaît pas, parce que ça va en faire beaucoup après.
Oui.
Mais c'est toujours un plaisir de. Et il y a ce truc, on en parlait. Hier, j'ai animé une conférence au musée de la carte à jouer d'Issy les Moulineaux, que je vous recommande d'ailleurs d'aller visiter, qui est très chouette. Et on discutait de ce plaisir incroyable de la recommandation de jeu. De ce moment où tu rencontres des gens et tu leur dis, hey, vous avez joué à ça? Vraiment, il faut y jouer, c'est vraiment super. Et le plaisir suprême étant les gens qui reviennent après et dire, oh là là, on a écouté ton conseil, on a acheté truc, et puis bah, derrière, on y a joué à plein, et puis vraiment, c'était vraiment super, donc machin et bidule, ils l'ont acheté aussi, et vraiment, c'est un très bon jeu, trop cool, merci. Et ça, c'est un plaisir très très fort, aussi parce que la mission est pas si importante que ça, puisqu'au final, c'est assez trivial, mais il y a ce truc de le jeu de société contemporain est assez peu, même si on est un secteur qui se porte bien et qui a plutôt tendance à monter, et encore un peu ignoré par pas mal de gens. Qui voit le jeu de société comme un truc pour enfants ou alors un truc très très compliqué pour les geeks, et donc les deux secteurs les intéressent pas, et il y a des très bons jeux pour enfants et il y a des très bons jeux de société vraiment très compliqués pour les geeks, mais il y a tout un pan au milieu de jeux familiaux vraiment accessibles auxquels on peut jouer à la fois avec des enfants et des adultes mélangés, mais à la fois avec des adultes que des adultes, et il y a toujours ce truc de se dire il faut que j'arrive à leur montrer que ça existe quoi. Et deux, c'est comme quand tes potes ils te disent ouais, les mangas c'est vraiment pour les enfants, et tu dis attendez, bougez pas, lis-moi ça, tu vas voir, c'est ultra bien, c'est vraiment pas pour les enfants, et je suis sûr que ça peut te plaire. Et donc il y a toujours cette volonté d'ouvrir des portes vers plus de gens qui jouent au jeu, presque une espèce de mission avec son bâton de pèlerin, d'aller convaincre des gens que le jeu de société c'est chouette. Mais il y a vraiment ce truc très très cool, et qui continue à chaque fois, le nombre de personnes qui n'ont jamais été dans une boutique de jeux, qui ont jamais joué à un jeu qui est sorti après 1995, il y en a vraiment un nombre très très important, et c'est toujours très chouette de dire j'ai convaincu quelqu'un de plus quoi.
Tu m'avais recommandé notamment, et on a fait 10 millions de parties avec mes filles,
Chat Book Pizza, effectivement, excellent jeu.
Une sorte de Jungle Speed.
Ouais, un jeu de rapidité.
De rapidité.
Avec un truc très simple, mais il y a cette petite comptine, Taco, Chat, Book, Pizza, et t'as un paquet de cartes et tu les dépiles. Et donc, dans les cartes, il y a des tacos, des chats, des books et des pizzas. Et si jamais je dis taco et que je retourne un taco, il faut taper très vite sur la pile de cartes. Et donc, tu te retrouves à être tout le temps en tension. Ah, vraiment super, Taco, Chat, Book, Pizza, qui est une belle découverte de ces dernières années et qui a réussi à toucher un public assez large. C'était assez agréable de voir.
C'est tellement simple, ça marche pour, comme on dit, de 7 à 77 ans, voire même clairement. Plus jeune que 7 ans, quoi. Parce que ça marche très, très bien, quoi.
Qu'est-ce qui me vient à l'esprit dans les gros jeux qui ont très très bien fonctionné ces dernières années et qui est vraiment super, il y a un jeu qui s'appelle Just One, qui est un jeu d'association d'idées. Donc il y a toute une vague de jeux d'association d'idées qui a été portée notamment par Codenames, que les gens commencent à connaître pas mal, qui rentre dans ce qu'on qualifie du patrimoine commun ludique, de ces jeux où tu peux en parler avec des gens, et la plupart des jeux auxquels je joue, des fois c'est un peu douloureux, même ceux que je crée, de dire « Ah ouais, tu fais des jeux, mais t'as fait quoi ?» Puis tu dis « Ah bah j'ai fait Draftosaurus, ça a bien marché. » Non, j'en ai jamais entendu parler. Ah, mais j'ai fait ça aussi. Non, je connais pas. Ah, j'ai bossé pour l'éditeur qui a fait le Time's Up. Ah oui, je vois le Time's Up, ouais, tout à fait. Et là, tu dis, ok, ça, c'est dans le patrimoine commun. Mm. Et donc, Codenames est un jeu qui a réussi à rentrer très, très fort et que je recommande, qui est un chouette jeu, mais je lui préfère, pour ma part, un jeu plus facile d'accès qui s'appelle Just One, qui est un jeu coopératif, où l'idée est vraiment brillante et très, très simple. C'est plutôt un jeu pour des groupes de joueurs et joueuses un peu nombreux. C'est plus rigolo à 5-6 qu'en petits groupes. Mais il va falloir me faire deviner un mot, et tout le monde autour de la table, sauf moi, sait le mot que vous allez devoir me faire deviner. Imaginons que ça soit chocolat. Donc moi, je sais que vous devez me faire deviner chocolat, mais évidemment, l'enjeu, c'est de réussir à le faire. Comment est-ce que ça va se passer? Moi, je ferme les yeux, et tous en même temps, vous allez écrire un et un seul mot sur une ardoise. Et moi, je vais, alors que j'ai toujours les yeux fermés, vous allez vous révéler les mots entre vous, et tous les mots qui sont plus d'une seule fois écrits vont être effacés.
Okay.
Donc, vous devez me faire deviner chocolat, toi t'as écrit cacao, il y a quelqu'un d'autre qui a écrit cacao, on efface vos deux indices. Et puis moi j'ouvre les yeux et je vois tous les indices qui me restent. Et il va falloir que, avec une seule proposition, j'arrive à trouver le mot en question. Et donc tu te retrouves toujours à te dire, je vais pas mettre cacao, parce que si je mets cacao, en fait, tout le monde va le mettre. Mais comme tu te dis que tout le monde va le mettre, bah personne va le mettre. Et tu te retrouves des fois avec des mots où tu fais, mais vraiment pour me faire deviner chocolat, là, les mots en question, c'est trois mots complètement absurdes, qui n'ont aucun rapport avec le chocolat, parce que par rebond, il s'est passé des trucs. Et néanmoins, régulièrement, ça marche, quoi. Et tu ouvres les yeux et tu vois, t'as noir, laid et belge. Et tu fais, attends, c'est quoi le truc? Et puis à un moment, ton cerveau finit par se connecter. C'est un jeu très épiphanique. Et moi, j'adore cette sensation de jeu-là de, wow, ça y est, je l'ai. Et quand tu l'as, c'est vraiment, vraiment excellent, quoi.
Ok.
Un jeu de Ludovic Sauter et Bruno Audi, d'ailleurs.
Oui, parce qu'on en parle tout à l'heure. T'es également une sorte d'encyclopédie pour savoir qui a écrit quoi, quoi.
Ah, j'aime bien, du coup, retenir le nom des auteurs et des autrices, ouais. Même si j'ai pas l'auteur de Taco Chabou Pizza dans ma tête. Aussi parce que c'est plus facile pour moi de retenir le nom des francophones, parce que généralement, oui, je les connais, en fait. Il y a aussi ce truc-là de, ouais, de quand t'as croisé quelqu'un, c'est plus facile de se dire, ah ouais, c'est toi qui as fait ça, c'est parti.
Parce que Taco Chabou Pizza, c'est un jeu étranger, c'est ça?
Ouais, c'est édité par un éditeur français, Blue, okay, Orange, alors qu'il y a un éditeur qui est un peu partout dans le monde, mais qui a ses bureaux à Pont-à-Mousson, dans l'est de la France.
Okay.
Mais au départ, je pense que c'est un auteur britannique,
okay,
qui crée le jeu, qui fait une petite édition un peu discrète, un peu, ouais, qui marche pas forcément très bien. Et Blue Orange découvre le jeu et se dit, bah, en fait, nous, ça nous plaît de ouf.
Mm.
Et on a fait un écrin un peu plus ambitieux et une diffusion un peu plus mondiale. Et c'est un jeu qui a, ouais, j'ai pas les chiffres de vente parce que c'est encore un peu tôt et ils n'ont pas trop communiqué.
Ouais.
Mais c'est un très très beau succès pour un jeu aussi récent et sur un domaine où tu parlais de Jungle Speed, mais Jungle Speed et par la suite Double ont, ouais, un peu cassé le game des jeux de rapidité. Il, mm, y a un truc d'aujourd'hui, un jeu d'observation rapidité à un éditeur. Il y a vraiment ce truc de, en fait, t'es gentil, mais les gens, ils vont acheter Double ou Jungle Speed à la place, donc c'est mort, ça sert, ouais, à rien d'en faire un autre. Et Taco Chabou Cheese Pizza a réussi à prendre une place qu'on aurait imaginé plus possible, donc c'était chouette pour ça aussi.
D'ailleurs, tu vois, je cherche sur internet, je trouve pas le créateur, quoi, tu vois.
Ah, je vais regarder.
Mais toi, t'as sans doute, c'est ça. T'as sans doute le bon truc, la bonne façon de trouver. Mais c'est vrai que quand tu le tapes sur internet, tu vois, il y a même pas.
Non, c'est très très rare que.
C'est fou, hein. Dave Campbell.
Ah, parfait. Voilà.
Si tu vas sur le site de l'éditeur du jeu, il le nomme quand même.
Dave Campbell, et tu vois, c'est un auteur qui a fait. Je suis en train de regarder sa ludographie et qui a pas fait énormément de choses. Même s'il a fait, du coup, Taco Cat Goat Cheese Pizza en VO.
Bien sûr.
Et après, il a fait d'autres. Il y a eu d'autres versions parce que le jeu marche très bien. Ils ont sorti Taco Hat Cake Gift Pizza, qui est une édition un peu d'anniversaire.
Okay.
Ils ont fait une version de Noël aussi. Donc il y a aussi ce truc assez rigolo quand un jeu fonctionne de. Bah, comme c'est des beaux cadeaux, généralement, c'est des trucs que les gens offrent énormément. Il y a cette volonté de faire des différentes versions, des trucs un peu rigolos. Et là, ils ont réussi à, ouais, bien embrayer sur ce truc de, bah, bon, tu fais un anniversaire avec des gamins, oh, bah, je t'offre la version anniversaire. Oh, bah, c'est Noël, bah, j'offre la version Noël. Ils ont bien mené leur barque, c'est
génial. Halloween.
Halloween, c'est vrai que ça mériterait. Je crois qu'elle n'est pas encore sortie.
Ok. Je voulais te parler de Twitch un petit peu avant de te laisser.
Ouais.
Tu continues, hein, parce que ça fait quelques. Je te vois plus là depuis un petit moment. Je te voyais régulièrement le matin
j'ai
en train de streamer.
Un tout petit peu. Là, j'ai refait quelques lives, mais j'ai été énormément en déplacement au mois d'avril et mai. Et donc, bah, je voulais pas streamer pas de chez moi. C'est, okay, un peu trop la galère, donc je l'ai pas fait. Et j'ai eu une petite période de lassitude aussi. De me dire, bon, en fait, alors j'ai eu un petit toc-toc du syndrome de l'imposteur dans le coin de la tête qui était plutôt parti sur ça et qui est un peu revenu de. Oui, bon, en fait, pourquoi est-ce que je fais ça? Les gens, ils s'en foutent, ça les intéresse pas trop. Il y a d'autres gens qui le font mieux que moi, donc vas-y,
attends,
je le fais.
J'ai
pas,
vu tes streams, il y a du monde,
ouais, mais
tes partenaires
pas.
Twitch, il y a des gens qui. Il y a plein de gens dans le chat qui réagissent à ce que t'es en train de raconter.
Je crois qu'il y a un truc de. Quand je me suis lancé, il y avait presque personne qui parlait de jeux de société en français sur Twitch. Et aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, il y a tous ces gens qui le font aussi, donc bah, allez voir les autres, en fait. Moi, pourquoi moi plutôt que les autres alors
parce que t'étais prompts.
Ouais, mais je sais pas, je me dis que les autres ils font ça mieux et donc ça m'a mis un petit coup de morale à un moment et j'ai eu un peu moins de trucs à raconter. Il y a aussi ce truc de bah comme j'étais en déplacement, j'ai fait moins de créations, donc il y avait moins de petites anecdotes que je pouvais raconter. Et raconter les déplacements, c'est un peu moins évident parce qu'il y a souvent des secrets aussi de dire ah, je suis allé chez un éditeur pour bosser sur un projet. Je peux pas du tout vous dire quoi parce que c'est un secret jusque au moins en 2023, mais vraiment c'était cool. Je vous en parlerai un jour peut-être. Et donc ça m'a j'ai été un peu moins ouais riche et avoir des j'ai moins eu de choses à raconter. Donc j'ai un peu calmé le jeu aussi parce qu'à un moment j'ai streamé 5 heures par semaine sur du papotage sans sujet préparé. En fait, bah j'avais plein de trucs à raconter mais j'ai un peu tari la source. Et aujourd'hui, je vais essayer à la fois de réduire un tout petit peu, soit je vais repasser à une matinale par semaine plutôt que deux, soit faire des matinales plutôt de 1 heure et je vais essayer de rebosser plus sur des concepts. J'ai un concept que j'aime beaucoup, qui est une fois par mois, qui s'appelle Prototypes, où l'idée, c'est que des jeunes auteurs ou autrices, dans le sens nouveau, pas forcément des personnes jeunes, m'envoient des pitchs de leur prototype de jeu, sous la forme soit d'une vidéo, soit d'un petit tableau pour me présenter le jeu. Moi, je le découvre en live, je n'ai vraiment pas regardé avant, donc c'est la surprise, avec les personnes qui sont présentes. Et je débrief à la fois sur éventuellement des éléments de game design, mais comme j'ai pas joué, c'est pas toujours facile, mais de « Ah, t'as pensé à ça ? Ah, attention, ton jeu, il a tel problème de matériel, attention, il y a ça. » Et aussi sur la manière dont le jeu a été pitché. De « Alors vraiment, ta vidéo était bien. Tu dis pas pour combien de joueurs et joueuses c'est un 2-4 joueurs ? Est-ce qu'on peut jouer jusqu'à 6 ? Il faut que tu le dises pour que les éditeurs le sachent. » Et éventuellement, j'aiguille un peu vers « Ah bah tiens, je connais bien les personnes de telle maison d'édition. Je pense que ça pourrait les intéresser. N'hésite pas à leur faire un mail, etc. » Là aussi, dans une idée d'accompagnement et puis de transmission et de partage un peu sur tout ça. Et donc, je pense que je vais essayer de plus développer des formats de cet acabit, pas forcément sur le modèle de prototypes, mais des trucs où j'ai un but et un propos fort au moment où je lance l'émission, que du papotage, just chatting, où je suis à l'aise, mais j'ai peur qu'à un moment, j'ai plus rien à raconter.
Okay. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont t'aurais aimé causer dans ce podcast ?
Wow, je sais pas. Moi, je suis assez intéressable, donc plein en fait. On aurait pu parler de plein de trucs sur la création, etc. Mais on a déjà fait un beau panel de pas mal de trucs, je crois.
Ok. Merci beaucoup, Théo, en tout cas. C'était vraiment très chouette.
Merci à toi, c'était
un plaisir. Je mettrai tous les liens dans les notes de cet épisode afin que les gens puissent aller te suivre sur Instagram, sur Twitch aussi, bien sûr. Et t'as une chaîne YouTube aussi ou pas ?
Alors, j'en ai vaguement une, mais c'est vraiment l'abandon. Elle est vraiment en friche. Au moment où on m'a dit « Ah, c'est chiant, tes live Twitch, j'aimerais bien les retrouver plus de 60 jours après la diffusion. » Donc à un moment, je les mettais sur YouTube brut, sans faire de montage. Puis à un moment, j'ai commencé à un peu oublier. Il y en a deux, trois qui sont partis dans L1, mais donc je me suis dit « Bon, j'arrête de le faire. » Donc j'ai un peu arrêté. Donc me trouvez pas sur YouTube, ça vaut pas le coup.
Ok. Et est-ce que il y a un endroit où on peut retrouver tous les jeux que t'as créés et tout
Les deux endroits les plus faciles pour voir ça, c'est il y a un site qui s'appelle MyLudo, qui est un site de gestionnaire de ludothèque et de ludothèque et de base de données de jeux, et ils sont assez à la page, c'est semi collaboratif, donc il y a vraiment un truc de généralement ils ont les bonnes sorties au bon moment, donc c'est un bon moyen de voir les différents jeux que j'ai créés. Et tu l'évoquais, et moi ça a été une source de surprise le moment où c'est arrivé quand même, mais ma page Wikipédia est plutôt à jour, donc si vous je pensais pas flex un jour avec ma page Wikipédia, mais si un jour si vous voulez voir tout ça sur Wikipédia, en plus d'une photo un peu limite de moi sur un trône de jeu pendant un festival. Voilà, c'est pas la meilleure photo de moi du monde, je crois. Vous avez la liste de tous les jeux que j'ai créés.
Merci Théo, c'était cool.
Merci à toi.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit... Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend, et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure, à partir de 6h du matin, dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.